Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Québec Oiseau, Québec Science et Protégez-vous. Au programme, le Roselin pourpré. Dans la tête des migraineux. Et comment choisir une résidence privée pour aînés. Bonne écoute.
Un charmeur en toute saison, le Roselin pourpré, un texte de Philippe Blin, paru dans Québec Oiseau, volume 32, numéro 2, hiver 2021. Sympathique fragilité, le Roselin pourpré a conquis le cœur des Québécois depuis longtemps, avec son doux ramage et la remarquable livrée framboise du mâle adulte. Chez cette espèce, le dimorphisme sexuel est très marqué, comme c'est le cas pour presque tous les roselins. Le plumage des mâles se décline souvent dans des teintes de rose, tandis que les femelles et les jeunes se dissimulent sous une coloration brunâtre. S'il est moins abondant que l'omniprésent chardonneret jaune, le roselin pourpré est très répandu dans les régions habitées du Québec. L'été, des contingents de l'espèce s'aventurent dans les sapinières et les pessières de la forêt boréale pour y nicher. Mais le roselin pourpré manifeste aussi une prédilection pour les forêts mixtes d'âges divers qui occupent les régions habitées du sud du Québec. Dans tous les cas, cet oiseau semble préférer les forêts que l'intervention humaine a perturbées, voire appauvries, plutôt que les forêts dites « climaciques », qui correspondent à un certain idéal écologique. Les coupes de jardinage, le morcellement des forêts par les emprises des routes et les corridors hydroélectriques, l'empiètement des villégiateurs sur les zones boisées, tout cela lui est bénéfique, car il profite alors de l'effet de lisière et de la variété du couvert arbustif qui lui procure une plus grande diversité de nourriture et un approvisionnement plus étendu durant l'année. Pas de caprice. Végétarien polyvalent et éclectique, le roselin pourpré est un grand mangeur de bourgeons, de fleurs et de fruits, tant de feuillus que de conifères, d'essences indigènes que d'espèces exotiques, d'arbres que d'arbustes. Voyez cette liste. Amélanchier, bouleau, cerisier, cornouiller, érable, frêne, genévrier, hêtre, micocoulier, orme, pommetier, sapin, sorbier, sumac. De plus, vers la fin de l'été, il s'adonne avec enthousiasme à l'autocueillette des fruits et des graines d'arbustes et de plantes herbacées, chèvrefeuille, épines vinettes, fraisier, framboisier, herbe à poux, herbe à puce, pissenlit, autant de plantes qu'il contribue à propager dans la nature. En période de nidification, cependant, les parents nourriront leurs jeunes d'une diète riche en protéines et donc d'insectes. En forêt boréale, en compagnie des parulines tigrées et à poitrine baie, les roselins compte alors parmi les plus féroces ennemis de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, dont les infestations sont tant redoutées des forestiers. L'hiver, le roselin s'abonne à nos mangeoires dans presque tout le Québec. Il est très friand des graines de tournesol. Et quand il en a le choix, il sélectionne les plus grosses. À Montréal et en Montérégie, sa présence est plus épisodique, car ces territoires sont maintenant le domaine du roselin familier, un nouveau venu qui a élu domicile chez nous depuis une quarantaine d'années, après avoir été relâché dans l'État de New York, et qui s'étend graduellement vers le nord-est. La cohabitation entre les deux espèces s'avère parfois difficile, et le roselin familier, malgré de récentes épidémies bactériennes, semble avoir le dessus sur son congénère dans les environs plus urbanisés. Quelle que soit la saison, le roselin pourpré partage son existence avec nous. À première vue, les oiseaux granivores semblent mener une vie moins aventureuse que les insectivores et les rapaces. Ils n'ont, après tout, qu'à glaner une nourriture qui s'offre à eux sans résistance. C'est oublier que les graines et les fruits sont saisonniers et les obligent souvent à des déplacements irréguliers, en particulier les individus qui vivent dans le Nord. C'est pour cette raison que le roselin n'est pas aussi abondant d'une année à l'autre. Le champ. Le roselin pourpré mâle pousse souvent son champ d'un perchoir exposé où son plumage coloré le met particulièrement bien en évidence, du haut d'un arbre ou même sur un fil électrique. Son chant le plus fréquent est une tirade mélodique qui peut compter jusqu'à 23 notes. Contrairement à la plupart des passereaux, la femelle chante également quand elle couve et son chant est un peu différent de celui du mâle. On a aussi constaté que le mâle incorpore parfois dans sa mélodie des éléments du chant du taui à flanc roux, du chardonneret jaune ou du vacher à tête brune. Portrait de famille. Certains sont jaunes, d'autres sont verts, d'autres encore sont roses. La plupart ont un bec conique, une queue échancrée et une voix mélodieuse. Les fringillidés constituent une grande famille d'oiseaux granivores répartis dans tout l'hémisphère nord. Cette fratrie est bien représentée au Québec. Elle comprend le durbec des sapins, nos deux roselins, nos deux becs croisés, nos deux sizerins, le tarin des pins, le chardonneret jaune et le gros bec errant. En Europe, la famille compte encore plus d'espèces, dont le nom nous est parfois bien connu, comme les linottes, réputées pour leur étourderie prétendue, les pinsons, gais selon le proverbe, et dont le nom a longtemps été appliqué à tort à nos bruants, et bien sûr, les serins, que nos grands-mères gardaient en cage pour égayer leur cuisine. Sur les quelques 40 espèces de roselins qui peuplent la planète, la plupart vivent en Asie et environ 25 habitent la Chine. C'est dans les montagnes du Sichuan, en climat tempéré ou froid, que se trouve le centre d'abondance des roselins du genre Carpodacus, auquel appartenaient les roselins d'Amérique du Nord jusqu'à tout récemment, avant qu'il soit isolé dans le genre Aemoroeus. Malgré leurs exigences écologiques particulières, beaucoup de ces espèces sont sympatriques, c'est-à-dire qu'elles cohabitent sur le même territoire. Il ne serait donc pas exceptionnel pour un observateur d'oiseaux de voir une demi-douzaine d'espèces de roselins dans la même journée en Chine. C'était un charmeur en toute saison, le roselin pourpré, un texte de Philippe Blin, paru dans Québec Oiseau, volume 32, numéro 2, hiver 2021.
Dans la tête des migraineux, un texte de Marine Corniou, paru le 21 octobre 2021 dans le magazine Québec Science. Les étranges symptômes visuels qui précèdent parfois les crises de migraine inspirent les artistes et les écrivains depuis des siècles. Lorsqu'elle avale le gâteau, Alice grandit et grossit. Lorsqu'elle boit la potion, son corps rapetisse jusqu'à devenir minuscule. Le monde lui paraît étrange, peuplé d'objets mouvants ou dédoublés. L'espace et le temps sont distordus. Ce qu'expérimente l'héroïne d'Alice au pays des merveilles, après avoir chuté dans le terrier du lapin blanc, n'est peut-être pas étranger à son créateur, Lewis Carroll. Il aurait ressenti ce même vertige, ces mêmes hallucinations, à l'occasion de crises migraineuses. Rien de très inhabituel. Ce type de signe neurologique transitoire qui affecte la vision précède de quelques minutes à une heure le mal de tête chez presque un tiers des personnes souffrant de migraines, une maladie chronique qui touche environ 10% de la population mondiale. Cet avant-goût de crise, qu'on appelle aura, se traduit le plus souvent par des points lumineux scintillants, des zigzags brillants ou des taches floues ou aveugles. Mais des sensations anormales, des troubles langagiers ou moteurs peuvent également survenir. Même si Lewis Carroll n'a mentionné ses migraines dans son journal que tardivement, après la rédaction de son célèbre roman en 1865, il aurait bel et bien souffert de ses auras visuelles à plusieurs reprises dans sa jeunesse. C'est du moins ce que soutient le médecin Klaus Podahl dans son livre « Migraine Art, The Migraine Experience from Within » 2008, qui rassemble plus de 300 illustrations et dessins créés par des migraineux du monde entier. Pour ce professeur de psychiatrie de l'Université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, les techniques d'art pictural représentent parfois le meilleur moyen pour les patients de communiquer leurs expériences et de raconter leurs symptômes. D'ailleurs, l'art migraineux, qu'il soit littéraire ou pictural, ne date pas d'hier. Klaus Podahl suggère dans son ouvrage que les auras et leurs motifs géométriques auraient pu inspirer certaines peintures rupestres du Paléolithique. Une théorie difficile à vérifier, mais pas improbable. On trouve des témoignages de céphalées à travers l'histoire, l'un d'eux dans un poème sumérien datant de 3000 ans avant notre ère. Un bon nombre de malades a donc vécu, au fil des âges, ces expériences invalidantes, mais potentiellement belles pour ceux qui possèdent la fibre artistique ou une inclination mystique. Ainsi, les visions annonciatrices de crise auraient influencé le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, 1623-1662, qui aurait pu les interpréter comme le signe d'une présence divine. Idem pour la religieuse Hildegarde de Bingen, compositrice et femme de lettres du XIIe siècle, que beaucoup de neurologues contemporains, dont Oliver Sacks, soupçonnent d'avoir souffert de migraines avec aura. Elle a raconté et peint ses visions dans un ouvrage, le Chivias, qui comporte de nombreuses miniatures aux motifs dentelés typiques. Ce n'est toutefois qu'au 19e siècle que la science s'est enfin penchée sur les auras. Le médecin britannique Hubert Airy, lui-même sujet aux migraines, a représenté ses hallucinations dans une célèbre image publiée en 1870 dans les Philosophical Transactions of the Royal Society. On y reconnaît les créneaux ressemblant à des fortifications, bordant des arcs de cercle qui bougeaient et s'amplifiaient pendant la vingtaine de minutes que duraient ces symptômes. Si le phénomène est encore mal compris, ces auras semblent se produire lorsqu'une vague électrique anormale parcourt les neurones du cortex visuel, mettant la vision hors circuit. Cette dépression corticale envahissante, qui se traduit par une hyperpolarisation des neurones suivie par une baisse de leur activité, a pu être observée par imagerie fonctionnelle chez des patients en crise. Sylvie Hill, écrivaine, poète et blogueuse pour l'organisme Migraine Québec, a un souvenir traumatisant de sa première aura. Citation : J'avais 12 ans, c'était le matin et j'ai été aveuglée, comme éblouie par de la lumière. Je ne trouvais plus mes mots, j'avais une sensation d'engourdissement. C'était effrayant. Fin de citation : 17 quarantenaires qui souffrent de migraines liées au cycle menstruel. Aujourd'hui, Ces auras sont uniquement visuelles et ressemblent, citation, à de l'eau qui bout au ralenti, à une sorte de plasma qui s'étend progressivement dans le champ de vision. Fin de citation. Elle n'épuise aucune inspiration particulière. Citation, les auras peuvent complètement dominer votre vie. Fin de citation, dit celle qui planifie toutes ses sorties en fonction de son cycle menstruel. Mais elle comprend qu'on puisse y voir de la beauté. Citation, certaines personnes ont une stratégie d'adaptation positive face à la migraine. L'art migraineux est très cathartique, il permet de mettre en image le chaos. Et c'est aussi un bon outil éducatif pour que la société comprenne mieux ce que sont les migraines. Fin de citation. C'était « Dans la tête des migraineux », un texte de Marine Corniou, paru le 21 octobre 2021 dans le magazine Québec Science.
Comment choisir la bonne résidence? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février de la revue Protégez-vous. Vous cherchez une RPA pour socialiser, obtenir des soins et vous sentir en sécurité. Nos conseils pour en trouver une à la hauteur de vos attentes. Le Québec est la province canadienne où les personnes âgées de 75 ans et plus optent en plus grand nombre pour la vie en résidence privée pour aînés, RPA. Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, 17 % d'entre elles avaient opté pour ce type d'habitation en 2021, alors qu'ailleurs au Canada, ce pourcentage se situait entre 5 et 10 %. Pour ces aînés, quitter un domicile où ils ont vécu pendant plusieurs années, voire des décennies, peut s'avérer une expérience pénible. C'est une étape phare parce qu'on réalise le temps qui passe, souligne la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ils réfléchissent ainsi au vieillissement, à la perte éventuelle de leur autonomie et même à leur mort. Leur capacité d'adaptation est aussi mise à rude épreuve dans ce changement de maison. C'est important qu'ils verbalisent ce qui est émotionnellement difficile, insiste la spécialiste. Que vous envisagiez d'aller vivre dans une RPA ou que vous accompagniez un proche dans ce projet, gardez en tête que ce déménagement peut susciter un choc émotif, surtout s'il est effectué rapidement. La décision est prise? Vous avez intérêt à dresser d'abord un budget et à déterminer les besoins auxquels la RPA devra répondre. Après quoi, informez-vous sur les résidences et visitez-en quelques-unes. Selon les experts consultés, la RPA parfaite n'existe pas, mais il y a moyen d'en trouver une où vous ou votre proche pourrez couler des jours heureux. Budgéter. La première étape consiste à faire un budget. Notez qu'en 2021, la SCHL évaluait qu'au Québec, le loyer mensuel moyen d'un logement sans service s'élevait à 1 922 $, alors que celui d'un appartement avec service atteignait 3 653 $. Attention! Des aînés commettent l'erreur de penser que leurs dépenses diminueront en déménageant dans une RPA puisqu'ils feront moins de sorties. Il y a en effet un changement dans le mode de vie. Cependant, si on rajoute tous les services, selon les besoins de la personne, le prix a tendance à augmenter, signale Patricia Girard, conseillère principale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Passez d'abord en revue les sources de revenus. Par exemple, les montants mensuels qui viennent d'un régime de retraite, d'un fonds enregistré de revenus de retraite, FER, ou d'un fonds de revenus viagers, FRV. À cela, il faut ajouter les allocations versées par les gouvernements du Québec et du Canada, telles que le régime des rentes du Québec, RRQ, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Si l'aîné est propriétaire d'une maison et qu'il décide de la vendre avant de déménager dans une RPA, la liquidation de cet actif doit être considérée dans les calculs. Une fois que la maison est vendue, cela augmente les possibilités, dit Patricia Girard. En vivant dans une RPA, l'aîné a aussi droit à des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. En voici deux incontournables. Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Montant accordé aux personnes âgées de 70 ans et plus pour couvrir 36 % en 2022 des frais admissibles, services de buanderie, préparation de repas, entretien ménager, soins infirmiers et assistance personnelle. Il dépend des revenus de la personne si elle est autonome et si elle vit en couple ou non. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés. Sommes versées aux aînés de 70 ans et plus selon leurs revenus. En 2023, elle peut atteindre jusqu'à 2 000 $. Pour avoir l'heure juste et pour profiter de tous les programmes et crédits d'impôt, vous pouvez faire appel à votre institution financière. Si la situation est plutôt complexe, par exemple, s'il y a plusieurs actifs en jeu, retenez les services d'un planificateur financier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février du magazine « Protégez-vous ». Évaluez vos besoins. Avant de rechercher une résidence, il faut déterminer les besoins à combler. Sachez que les RPA sont classées selon les services qu'elles donnent. Catégorie 1. Services offerts. Organisme à but non lucratif qui offre au moins 2 services de base, la préparation de repas, des mesures de sécurité, l'organisation d'activités de loisirs et une aide domestique. Catégorie 2. Entreprise privée qui offre au moins 2 services de base. Catégorie 3. Résidence qui offre au moins 1 service de base, en plus des soins infirmiers ou d'un service d'assistance personnelle. Catégorie 4. Résidence qui offre des soins infirmiers, un service d'assistance personnelle et au moins 1 service de base. Les RPA, qui font partie des 2 premières catégories, accueillent des retraités en pleine possession de leurs moyens, alors que celles qui sont classées en 3 et 4 prennent soin de ceux qui ont besoin d'assistance au quotidien. Une même résidence peut recevoir des personnes de différents degrés d'autonomie. Par exemple, elle peut comprendre des logements où vivent des aînés qui obtiennent peu ou pas de services et une unité de soins qui héberge des gens semi-autonomes. Les locataires peuvent ainsi rester dans leur RPA, même si progressivement, ils ont besoin de davantage de services. C'est important de demander si la résidence est évolutive et si elle est capable de s'adapter aux besoins de l'aîné, note Nathalie Perrault, directrice générale du portail Résidence Québec. Si un locataire perd peu à peu ses capacités et qu'il se trouve dans une RPA d'une catégorie qui ne correspond pas à ses besoins, il doit quitter la résidence, ce qui entraîne un autre déménagement et une nouvelle vague d'émotions. Dès que la personne atteint 1,5 heure de soins par jour, elle doit aller dans un CHSLD ou une résidence intermédiaire. Les RPA ne sont pas équipés pour la garder, indique Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Des professionnels peuvent vous épauler pour déterminer dans quelle catégorie de RPA vous devez orienter vos recherches. Le travailleur social. Si votre proche parent est en perte d'autonomie, demandez l'aide d'un travailleur social. Vous pouvez en trouver un en contactant le guichet d'accès en soutien à domicile de votre région ou un CLSC. Au cours d'une visite, le travailleur social évalue l'état de l'aîné à l'aide, notamment du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Ce questionnaire passe en revue les capacités de la personne dans ses activités quotidiennes, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène personnelle, etc., et ses habiletés à communiquer, la locution, la vue et l'ouïe. Il examine aussi ses facultés mentales, la compréhension, la mémoire, le jugement, etc., et ses aptitudes à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas, entretenir la maison, se déplacer, etc. Le conseiller en hébergement. Que l'aîné soit en perte d'autonomie ou pas, un conseiller privé en hébergement peut aussi donner un coup de main. Son travail consiste à effectuer des recherches pour trouver une RPA qui correspond aux besoins, aux intérêts, aux préférences en matière de logement ainsi qu'aux moyens financiers de son client. Le but, c'est d'amener la personne dans un endroit où elle va rester le plus longtemps possible, explique Nathalie Perrault. Le conseiller en hébergement peut-il vous suggérer une résidence qui présente des lacunes? S'il y a un problème avec l'un de nos clients, on va confronter la RPA. S'il n'y a pas de changement, on arrête de la recommander, indique Louis Sirois, président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec, ACHQ. Il ajoute que ses membres partagent entre eux des informations sur les résidences problématiques. Sachez que ce sont les RPA qui rémunèrent le conseiller en hébergement. Dans nos ententes, elles ne peuvent pas refiler la note à l'aîné et celui-ci a droit à tous les escomptes et promotions en vigueur, insiste Louis Sirois. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, publié dans l'édition du mois de février dans la revue « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Jocelyne Langevin et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.